franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le TNP de Jean Villard. Ce 11 novembre 2011, le TNP rouvre à Villeurbanne. TNP comme SNCF, RATP, le théâtre comme service public, le théâtre au service du public. L'utopie d'après-guerre renaît sous une forme nouvelle, avec des habits transformés. Notre témoin d'aujourd'hui, Marcel Maréchal, bonjour.
Bonjour.
Alors la région lyonnaise, il connaît le théâtre du Coturne, le théâtre du 8e, le théâtre populaire, il connaît la criée à Marseille, les tréteaux de France. Vous avez mille liens avec le TNP, vous avez pris longtemps les conseils d'un conseiller de Jean Villard, Jean Rouvet. On n'est pas tout seul quand on est un homme de théâtre.
Sûrement pas, non. Le Villard, il avait, comme il aimait à dire, qu'il avait autour de lui un commando, dont justement il y avait Jean Rouvet, l'administrateur, Savron pour la lumière, Giscia pour les costumes et la scénographie, enfin toute une bande de techniciens, puisqu'il avait le plus grand respect pour les techniciens. C'était ce qu'il appelait le commando.
Le commando. L'équipe.
D'ailleurs, il n'aimait pas se faire appeler metteur en scène, mais plutôt chef de troupe. Et quand il mettait en scène, c'était régisseur.
Alors la troupe, on va l'entendre dans un instant, telle qu'elle s'exprimait dans La Joie de Vivre, avec notamment en tête de distribution Gérard Philippe.
Mesdames, messieurs, la représentation commencera dans 5 minutes.
Qu'est-ce que le théâtre national populaire ?
Eh bien, le mieux serait de le lui demander.
Mais à qui ?
Mais au TNP, pardi.
À vous servir, à vous servir, à vous servir, voyez que je m'empresse. Je voudrais bien, je voudrais bien, je voudrais bien redoubler de vitesse.
Ah, mais pardon, mais... Daniel Serrano.
Un Figaro, me voici, un Figaro, me voilà.
Jean Deschamps, permettez. Bon. Rodrigue. As-tu du cœur?
Tout autre que les champs, les prouverait sur l'heure.
George Wilson, pardon, Wilson ou Wilson?
Vous avez bien dit, George Wilson. Je suis d'ascendance irlandaise, mais rassurez-vous, je suis né à Champigny-sur-Marne, comme tout le monde, dans la Seine.
D'Arras, Jean-Pierre D'Arras.
Tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais.
Philippe Noiret, je m'excuse, Philippe Noiret, et vous?
Et il est de Lille.
Sais-tu, Monadol, qu'à Lille, on est chauffé jusque dans la rue. Ce qui ne nous change pas du théâtre d'ailleurs.
Pourquoi, Philippe Noiret ?
À cause des fours,
oh,
monsieur.
Alors, maintenant, Gérard Philippe, dois-je annoncer la reine d'Espagne ou bien la reine d'Angleterre ?
Et annoncer Monique Chaumette.
Ben la voilà. Et l'autre
la reine d'Espagne.
Gabi Silvia, par conséquent. Et on n'a oublié personne, Gérard ?
Non,
je ne pense pas, tout le monde.
Il y a un certain Bidard.
Bénard.
Bidard.
Norval.
Valdard.
Mon Dieu, Jean Villard.
Alors, qui est Marcel Maréchal, ce Jean Villard, cet ascète de sept, leader, régisseur, instituteur? Qu'est-ce qu'il a fait avant 51, avant la création du TNP?
Ouais, d'abord, le TNP, c'est pas né tout de suite. Hein. Il a d'abord été... il a joué dans le théâtre privé.
Le théâtre de poche, des petits théâtres.
Au théâtre de poche. Et déjà, son grand succès qui va devenir, qu'il a joué, je crois, 2330 fois après, une première mouture de Don Juan, la danse de mort, tout ça. Donc, mais il n'avait pas encore l'idée d'un théâtre populaire. En fait, tout est né, peut-être, avec... l'expérience qu'il a eue avec Clavé de La Roulotte. La Roulotte, c'était un, une compagnie itinérante, un peu comme justement comme les Tréteaux de France, et qui jouait dans des basses-cours, dans des salles de bal, dans des endroits complètement impossibles. Et c'est là qu'il a découvert un public complètement nouveau, fait de petits commerçants, de paysans, d'ouvriers, de gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller au théâtre. Je crois que ça a été l'expérience de la roulotte a été vraiment importante. Et puis après, bon,
47,
après 47,
la
c'est
semaine
Avignon,
d'art, puis
voilà.
Le festival. Ouais, voilà.
C'est là que tout naît. Avignon est un banc d'essai, quoi, d'abord pour l'esthétique qui sera celle du TNP. Un plateau nu, une scène ouverte, le plein air, un son nouveau, un public immense, des grands textes aussi de poètes. Toute l'expérience de tout ce qui va devenir le TNP en 1951 grâce à Jeanne Laurent
est condensée à Avignon.
À Avignon, je crois que...
Une ordonnance, cérémonie du théâtre.
Oui, c'est un banc d'essai. Sans Avignon, d'ailleurs, il le dit, sans Avignon, il n'y aurait peut-être jamais eu le TNP. Et quand il quitte le TNP pour des raisons qui ne sont pas toujours très claires, il retourne à Avignon pour dire que c'est d'Avignon que va venir le renouveau, l'esprit conquérant que nous avions en 1947.
On entendait tout à l'heure Gérard Philippe qui incarne la troupe du TNP. Gérard Philippe, il n'était pas au début d'Avignon.
Non.
Il n'a rejoint Jean Vuillard qu'en 1951.
Oui, parce qu'au début, je crois que Vuillard lui a proposé justement de jouer le Cid, et puis il a pas voulu. Et puis,
a dit Jean Vuillard.
Ça, il paraît, ce qu'a dit Jean Vuillard. Et puis tout d'un coup, deux ans après, il est venu, et évidemment, il a joué le Cid, et ça a été extraordinaire.
Avant le Cid, il y a eu le Prince.
Oui,
de
le Prince d'Hambourg, pardon, excusez-moi.
Propédeutique, oui. Musique de Maurice Jarre, toujours. Nous sommes en 1951. En 1951, la salle de Chaillot, qui a connu les débuts de Firmien Gémier, la première expérience de TNP le 11 novembre 1920, ça avait été lui, mais c'était un signal sans lendemain. Elle n'est pas dévolue au théâtre, il s'y déroule des conférences internationales, mais il suffit souvent d'une opportunité et de l'esprit de décision d'une fonctionnaire, vous avez cité le nom de Jeanne Laurent, que débute une aventure.
Oui. Jeanne Laurent propose à Jean Vuillard donc cette salle-là, qu'il considère comme une salle d'ailleurs complètement impossible, mais à bien des égards ressemblant à un lieu de plein air. Et ce qui est important, c'est que Jeanne Laurent a dit ce qu'il faut pour ce théâtre-là, ce théâtre qui s'appellera Théâtre National Populaire, il faut non pas un administrateur, mais il faut un créateur. Je crois que c'est la première fois que, dans l'histoire des rapports de l'État et de la culture théâtrale, en tout cas, il y a cette notion de créateur.
Avec la bénédiction et les subventions de l'État, oui. Laurent est alors sous-directrice du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, donc les travaux commencent à Chaillot.
C'est elle aussi qui va inventer la décentralisation, n'oublions pas.
Bon. Oui, elle conçoit Chaillot un peu comme le navire amiral des centres dramatiques nationaux. Mais avant l'installation à Chaillot, qui sera chose faite en 52, oui. Il faut aménager. Et pendant ce temps-là, en novembre 51, l'équipe du TNP va à Suresnes, et dans l'équipe du TNP, Plançon et Coussonneau qu'on entend.
D'abord, il y a eu le phénomène Suresnes. Et Suresnes, ça a été une espèce d'événement médiatique considérable. Le tout Paris est venu à Suresnes. Et les ouvriers de Suresnes, les gens de Suresnes. C'est-à-dire qu'il y a eu, dès la première représentation, il y a eu ce mélange que Vuillard souhaitait.
La chose la plus prodigieuse, à mon avis, du petit festival de Suresnes, ça a été le débat avec le public. C'était la première fois qu'on faisait ça, avec Vuillard assis sur le plateau avec Gérard, répondant, et tous les acteurs. Il est vrai qu'il fallait prendre des formes, des règles de ce genre. Par exemple, ça a sidéré tout le monde qu'on supprime les pourboires, que le vestiaire soit gratuit, que le programme soit pas cher, la ponctualité, les drames affreux avec les critiques qui n'ont pas eu le droit d'entrer, qui ont fait un scandale sans précédent.
Ah, elle est bonne, celle-là.
Alors, Gérard, peut-on être sérieux et demander vraiment qu'est-ce que le TNP ?
Le TNP, c'est le marbre de Chaillot.
Le TNP, c'est joué dans un quatrième sous-sol. C'est Yves Montand.
Le TNP, c'est Maurice Chevalier.
Le TNP, c'est des valises.
C'est le Palais des Papes.
C'est la musique de Maurice Jarre.
Le TNP, c'est le... public.
C'est Corneille.
C'est le public.
C'est Molière.
Le public.
C'est Shakespeare.
Le public.
C'est Victor Hugo.
Le public.
Et c'est le public qu'il faut débarrasser, Marcel Maréchal, des protocoles du théâtre à la parisienne et accueillir avec de nouveaux dispositifs.
Oui, il y a d'abord de rechercher le public dans trois directions, c'est-à-dire les associations culturelles comme Travail et Culture, comme Les Arts et la Vie, les groupes de jeunes et les entreprises.
Les comités d'entreprise.
Oui, les comités, notamment les PTT, la SNCF. Ouais. Et puis alors une autre façon d'accueillir le public, de l'accueillir avec une chaleur très grande et puis de lui proposer un système de place.
La visibilité est la même pour tout le monde.
Oui, et puis des places très peu chères. Et puis surtout, l'invention de maintenant, tout le monde fait ça. Mais qui est-ce qui a inventé ça? Les abonnements, tout bêtement. Et quand on a voulu d'ailleurs supprimer les abonnements plus tard au TNP, vous savez, bon. Et alors, les abonnements, et puis le dialogue avec le public, et puis toute une série de choses extraordinaires comme la revue Bref, des programmes très peu chers et très, très, très bien, très pédagogiques. Et puis ensuite, une chose absolument merveilleuse, c'est tous ces textes. Tous les textes, je crois qu'il y a eu combien de spectacles?
Plus
de...
Il y a eu 57 classiques, oui. Et puis pas mal de 63... pièces contemporaines. Oui.
Oui, je crois que tous les textes ont été édités et vendus très peu cher pour le public. Ben, il y avait toute une série de choses qui ne s'étaient jamais vues, quoi, et qui ont eu un immense succès. Et ben, le placement libre, ça a l'air... Pas du tout.
Le placement égal.
Le placement égal et surtout l'absence de pourboire. On en rigole maintenant, mais c'était très, très important.
Ça constitue une mémoire, ça constitue un espace. C'est toujours la même émission, La Joie de Vivre. Nous sommes au zénith du TNP en 54.
Eh bien, Gérard, nous venons de dire à l'instant que le TNP, c'est le public. Et les cinq jeunes gens qui se trouvent ici maintenant sur la scène de l'Alhambra devant nos caméras sont les représentants du public, puisque nous les avons choisis parmi les amis du TNP. Et je vais leur demander qu'est-ce que le TNP représente pour eux. Monsieur, comment vous appelez-vous?
C'est Barra Jean-Pierre.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Ajusteur chez Renault.
Quel âge avez-vous?
26 ans.
Qu'est-ce que le TNP pour vous?
Le TNP pour moi, c'est un théâtre populaire qui représente de très grandes pièces, jouées par de très grands acteurs.
Merci. Mademoiselle, comment vous appelez-vous?
Jacqueline Pouille de Bas.
On peut encore vous demander votre âge, hein?
26 ans.
26 ans, voyons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis employée au PTT.
Qu'est-ce que le TNP pour vous?
Eh bien, pour moi, ce sont les chefs-d'œuvre classiques à la portée de tous. Le TNP a apporté un renouveau dans le noir qui sont entre les changements de tableau.
C'est-à-dire vous êtes contre le rideau?
Oui.
Ben voyez, nous aussi, ici, on ne fait pas de rideau entre les numéros.
Alors, nous sommes d'accord.
Monsieur, comment vous appelez-vous?
Pierre Wildenstein.
Quelle est votre profession?
Dessinateur en ciment armé.
Quel est votre âge?
19 ans.
Qu'est-ce que le TNP pour vous?
Eh bien, pour tous les apprentis du bâtiment que je représente ici, le TNP, c'est en quelque sorte la découverte du théâtre. Beaucoup de mes camarades, en effet, n'étaient jamais allés au théâtre avant de venir à Chaillot.
Vous avez la preuve que le TNP, c'est le public!
Alors, l'apprenti du bâtiment, l'ajusteur, ça veut dire que le public populaire, c'est un public ouvrier dans l'esprit de Villard?
Ah, pas du tout. Il était contre l'idée de théâtre prolétarien et même de réalisme socialiste. Vous comprenez, son esthétique, c'était les grands poètes, les Shakespeare. Ou... Non, pas du tout. Et d'ailleurs, Sartre, bêtement, lui rapprochait lui a dit que le TNP, ce n'était pas un théâtre pour les ouvriers. C'est effectivement vrai qu'il n'y avait pas une proportion énorme d'ouvriers, mais ce n'était pas le but de Villard. Il explique ce que c'est que la notion de théâtre national populaire. Dans un petit texte que je peux peut-être vous lire.
Mais allez-y.
Vous lire.
Comment faire une société ? C'est peut-être qu'une fiction sociale d'un moment, mais ça réunit toutes les classes de la société, le théâtre.
Voilà, il dit... Quand on lui demande ce que c'est que pour lui le théâtre national populaire, il dit théâtre ça va tout seul, répond-il, ou c'est clair. National, ça veut dire que nous avons des devoirs, tout employé a des devoirs. Populaire comporte l'obligation d'apporter le théâtre au peuple, c'est-à-dire non pas à telle ou telle classe de la société, mais à l'ensemble du peuple français. Je crois que c'est clair. Enfin, je veux dire, donc, il n'a jamais eu la prétention de réunir qu'une classe. Enfin, c'est pas bon.
On a entendu là trois témoins dans l'émission d'Henri Spad, La joie de vivre. Ce sont des témoins jeunes. Le public du TNP était jeune.
Oui, c'est un public très, 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 très jeune. C'est ce qui caractérisait Je crois que c'est une des grandes caractéristiques du TNP, c'était la jeunesse effectivement du public, grâce aussi à tout un travail auprès des groupements de jeunes et tout.
Oui, mais à ces jeunes, on propose des classiques. Tenez, Ruy Blas. Ruy Blas est repris le 11 novembre 2011 dans le nouveau TNP de Villeurbanne, dans une mise en scène du directeur Christian Scaretti, avec dans le rôle de titre Robin Renucci, votre successeur Maurice Maréchal.
Non, c'est pas le rôle titre. Il est dans
le rôle titre.
Don Salluste.
Ah oui, c'est Don Salluste, pardonnez-moi. Mais oui, mais c'est parce que c'est le rôle de Gérard Philippe, et c'est Gérard Philippe que je voulais vous faire entendre. Alors, Gérard Philippe est là, dans un éclairage économe, il y a le grand globe terrestre. Au nom des peuples, il interpelle les ministres, minables administrateurs de la planète, qui ne sont même pas capables de succéder au grand empereur.
Charles Quint, dans ces temps d'opprobre et de terreur, que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur ? Ô, lève-toi, viens voir, les bons font place aux pires. Ce royaume effrayant fait d'un amas d'empire. Penche, il nous faut ton bras, au secours, Charles Quint, car l'Espagne se meurt. Car l'Espagne s'éteint. Ton globe qui brillait dans ta droite profonde, soleil éblouissant qui faisait croire au monde que le jour désormais se levait à Madrid, maintenant, astre mort dans l'ombre s'amoindrit, l'une aux trois quarts rongée qui décroît encore et que d'un autre peuple effacera l'aurore. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs. Tes rayons, ils en font des piastres. Tes splendeurs, on les souille. Ô géant, se peut-il que tu dormes ? On vend ton sceptre au poids. Un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi. Et l'aigle impérial qui jadis sous ta loi couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit, pauvres oiseaux plumés, dans leur marmite infâme.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bon, après avoir entendu Gérard Philippe, plutôt que de me citer, il faut mieux vous citer, Marcel Maréchal. Vous êtes notre invité pour une émission sur le TNP, autant de Gérard Philippe et de Jean Villard. C'était pas évident de choisir parmi les classiques Victor Hugo.
La tentation de monter Ruy Blas, c'était un pari, parce que selon Villard, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas du meilleur Hugo. Ça sent son école et le style romantique. Mais... il y a quelque chose, c'est une histoire. Il aimait beaucoup les histoires d'amour, comme le Cid. C'est une grande histoire d'amour. Et puis, c'est aussi une satire politique qui est plus ou moins toujours contemporaine. Donc, tu as envie de monter Ruy Blas, car aucun des grands animateurs de théâtre qui l'ont précédé, c'est-à-dire ceux du cartel, Antoine Gémier et aussi Copeau, n'avaient monté Ruy Blas. Et bien alors, ça posait un problème terrible parce que correspondait pas tout à fait à son esthétique, puisqu'il y a quatre décors, dont le fameux décor qui est une espèce de tanière de Don Salluste au quatrième acte. C'était assez compliqué, mais il a gardé quand même le style TNP. Et puis, je crois que ce qu'il a décidé à monter Ruy Blas, c'est Aragon qui adorait Victor Hugo. D'ailleurs, j'ai un livre d'Aragon, pour ceux qui aiment Victor Hugo, qui s'appelle « Avez-vous lu Victor Hugo ?»
Alors, il a monté aussi Marie Tudor, mais parmi les classiques qu'il montait, beaucoup étaient peu peu connu, et voilà, pas mal étaient des classiques étrangers.
On lui fait le reproche d'avoir monté que des classiques, c'est pas vrai. Bon, c'était les Caprices de Mariette, c'était pas si joué que ça. Par exemple, il y a deux choses qui sont des découvertes, c'est le Triomphe de l'amour, qui a fait un triomphe, justement. Et puis, l'heureux stratagème. Non, au contraire, il allait effectivement vers des textes classiques, mais des textes méconnus, ou en tout cas très peu joués, ou même pas joués du tout. Comme le Triomphe, ça a été un grand triomphe. Ça n'avait jamais été joué, l'heureux stratagème, pareil. Par ailleurs, si vous voulez... il y a eu une époque où il y a tout un répertoire... politique aussi, à partir de 60, mais, enfin bon, ça, il y a eu Arturo Huy, l'Alcade de Zalamea, la paix d'Aristophane, parce que c'était pour parler sur scène du conflit algérien, tout ça, enfin bon.
Les classiques qui ont une résonance contemporaine.
Oui, mais quand il a voulu, enfin si on peut, je ne sais pas s'il faut continuer là-dessus, mais quand il a voulu aussi s'attaquer au théâtre Récamier, au répertoire contemporain, ça a été un bide terrible, Crapaud Bluff de Gatti, La Lettre Morte de Pinget. Et alors, aussi, moi, j'en parle parce que ça a été mon grand ami, le bide qu'a fait Gérard Philippe avec La Nouvelle Mandragore de Jean Vautier dans la grande salle de Chaillot. Quoi.
Alors, il y a des échecs, et des échecs de Gérard Philippe, metteur en scène.
Nucléa aussi, de Pichette.
Le spectre est très large, en fait, des spectacles proposés, parce qu'il y a aussi des banquets, des bals pendant des nuits spéciales. Et puis, en 61, une comédie musicale, prélude peut-être à l'Opéra national populaire dont il rêvait, avec, entre autres, Juliette Gréco.
On enterre les chiens, on enterre les chats, on enterre les chevaux, on enterre les hommes, on enterre l'espoir, on enterre la vie, on enterre l'amour, les amours, on enterre les amours, l'amour, on enterre en silence. Le silence, on enterre en paix, la paix la plus profonde, sous une couche de petits graviers multicolores, de coquilles Saint-Jacques et de fleurs multicolores. Il y a une tombe pour tout, à condition d'attendre. Il fait nuit, il fait jour, à condition d'attendre.
Loin de Rueil, Maurice Jarre et Roger Pillaudin, d'après Raymond Queneau. Oui. La mort frappe haut. On enterre aussi, 59, Gérard Philippe, 62, Daniel Sorano. En fait, rien n'a jamais été facile pour le TNP.
Non, même au niveau des moyens, il a pas toujours été. D'ailleurs, il y a eu énormément d'ennemis politiques dans la classe politique de droite. Il était considéré comme un communiste presque, hein, et c'était pas bien vu quand même.
Difficulté en 53-54.
Ouais, évidemment. Et puis les subventions de l'État n'étaient pas très conséquentes par rapport aux autres théâtres nationaux, notamment la Comédie française. Et puisqu'il y a que 20... Mais Villars s'en est tiré d'une façon très boutiquière, comme il aimait à le dire.
Il était fils de boutiquier. Ouais.
Il a eu 25% de son budget total qui était en subvention. Tout le reste, c'était des recettes propres. Rendez compte, tous les soirs, c'était plein, 2800 personnes. Et puis surtout, il ne jouait que 5 mois à Paris. Le reste du temps, il faisait des tournées en France où il amortissait où il faisait pas mal d'argent, tournées à l'étranger. Et surtout, pendant ça je le tiens de Jean Rouvet, mais aussi tout le monde le sait, c'est que pourquoi est-ce qu'il jouait que 5 mois ? C'est pendant le reste du temps, Jean Villard et son administration louaient la salle du TNP à des associations, et ça rapportait énormément d'argent. C'est pour ça qu'ils ont tenu.
Voilà. 63, peut-être déçu, alors que le ministère Malraux faisait du TNP un modèle pour les maisons de la culture. Il démissionne, il se concentre alors sur le Festival d'Avignon, dont il reste le directeur. Mais là aussi, la contestation va le toucher. Il n'aurait pas aimé que les événements de 68 laissent le Festival d'Avignon indifférent. Il aurait aimé cependant que les choses se passent différemment et qu'on ne crie pas parfois dans les rues Villard-Salazar.
Ouais. Je dois vous rappeler simplement que je ne suis ni un philosophe de l'action, ni un clairvoyant de l'action politique. Je ne suis pas même un dixième ou un cinquième ou un tout ce que vous voudrez, ni de Marx, ni de Lénine, ni de tout autre. Mais on attend des actes et non pas une critique uniquement d'une action théâtrale. Car enfin, qu'est-ce qui se passe ? Je m'aperçois qu'uniquement l'unique point chaud en France de la contestation est uniquement sur ce terreau d'Avignon. Dans une certaine mesure, cela me rend fier. Dans une autre mesure, je rappelle que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Et je pense que tous les camarades enragés, du moins ceux qui ont pensé la question, qui le placent sur le plan politique, m'approuveraient peut-être.
Oui, faites-moi une bonne société. Je ne peux pas tout faire. Je ne ferai un bon théâtre que dans ces conditions.
C'est sûr. Et là, y a un texte que j'aime bien qui... C'est en 69, hein, bien après ça, tout ça, qui dit « Ce travail qui a été pour moi pendant des années celui d'un théâtre populaire, il faut le reconsidérer, en faire une étude sévère et se demander s'il a touché, s'il a accompagné sa mission. Je sais bien que je ne l'ai pas accompli. Et je peux même dire que la notion de théâtre populaire dans notre société, telle qu'elle est à l'heure actuelle, est une utopie. Hein, ce que veut dire « faites-moi une bonne société ». Mais c'est une utopie pour laquelle il est tout de même... Le théâtre populaire est tout de même, comme nous l'avons conçu, une utopie nécessaire, quoi, avec des corrections profondes. Non, un théâtre populaire, il nous faut faire, comme nous l'avons conçu, mais avec des corrections profondes. Encore une chose nécessaire. Qu'ai-je fait, continue-t-il, de l'histoire de l'art, vu selon son profil esthétique ? Ce théâtre que je fais, s'il cherche à s'inscrire dans l'histoire sociale, il cherche à s'inscrire, décidément, à s'inscrire dans l'histoire sociale, tout simplement. Et sur cet immense terrain où se déroulent les querelles du monde, ma place est misérable. C'est à cette place et à cette place seule que je tiens.
Dites-moi, ça veut dire que la révolution ne signifie pas rupture avec la tradition, comme le pensaient les 68ards. On n'est pas tout seul dans le théâtre. On est le fils d'eux.
Oui, on est le fils d'eux. Et d'ailleurs, tous les gens maintenant qui représentent le théâtre public, ils sont, sans le savoir, mais ils sont tous, en tout cas... Ma génération, c'est certain, mais ils sont les fils de Jean Villard, quoi. Il y a aucun problème. Il a tout inventé, et ce qu'il a inventé, même au niveau esthétique, n'est pas dépassé. En tout cas, au niveau du dialogue et du rapport avec le public, c'est des enfants de Jean Villard, mais ils ne le savent pas.
Mais
certains...
Christian Chiaretti, qui reprend le nouveau bâtiment du TNP à Villeurbanne, le sait parfaitement. 2 salles, une petite, une grande, 4 salles de répétition et une grande brasserie sans laquelle on ne peut pas avoir de théâtre aujourd'hui, laquelle peut devenir cabaret. Et puis la reprise de Ruy Blas de Victor Hugo avec dans le rôle principal, non, dans le rôle de Don Salluste, Robin Renucci, votre successeur au Tréteau de France. Demain, nous parlons d'Édouard VII et de l'Entente cordiale. Cette émission a été préparée par Meryl Moneghetti, Frédéric Martin, Franck Olivard, avec Jacques Sigal à la réalisation et Sophie Moreno et Patrick Henry à la technique.